Oui, j'aimerais bien qu'on puisse passer un petit peu la parole à la salle, si d'autres ont des questions, en remerciant Victoria de ces questions aimées qui permettent à une vulnérable banca de déployer justement au fond de tous les ressorts et de son raisonnement et de ce qui se passe, de toutes ces articulations sociologiques, oui.
Jour d'année.
Très bien.
Ça marche.
Oui. Je voudrais apporter la...
Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jean Danet.
Vous soumettre deux ou trois hypothèses, M. Jabancard. Enfin, vous dire en tout cas comment j'ai lu votre livre, ce qui m'a inspiré. D'abord, je veux dire qu'il se trouve que je suis nantais, personne n'est parfait, et à ce titre, je connais tous les acteurs professionnels de ce livre. Et je voudrais dire d'emblée que je trouve que vous êtes un formidable portraitiste. Parce que c'est... ces acteurs professionnels que parfois je connais depuis 20 ans, j'aurais été bien incapable de dire en si peu de mots l'essentiel sur ce qu'ils sont, sur leur manière d'être. La deuxième chose que je voulais dire sur un mode beaucoup plus léger, mais après tout, ça fait sens. Comme avocat honoraire, j'ai choisi d'aller à la manifestation qui s'est tenue à Nantes avec des magistrats. C'était très singulier, cette manifestation. Des magistrats de tous bords, des avocats, réunis dans une manifestation, et je vais, pour faire sourire, vous dire que j'ai retrouvé dans cette manifestation une magistrate, aujourd'hui à la retraite, qui était à l'époque présidente de chambre dans une autre cour d'appel, et qui défilait dans son costume d'audience, c'est-à-dire rouge, et nous étions ensemble à la faculté de droit de Nantes au début des années 70. C'est peu de dire que nous n'étions pas du même bord politique dans cette faculté très marquée par des mouvements qui allaient des situationnistes à l'extrême droite. Et nous avons souri, c'était pas tout à fait pourtant l'atmosphère, mais nous avons souri parce que je lui ai dit, et si on nous avait dit en 1970 que nous défilerions tous les deux dans la rue, fous en rouge surtout, et moi à côté, ça, on ne l'aurait pas cru, quoi. Hein, voilà, bon. Après, plus sérieusement, je voulais vous soumettre, j'espère que ça ne vous froissera pas, j'espère que c'est pas trop loin de vos réflexions et de vos positionnements. Je crois qu'effectivement, votre livre est une manière de mener des biographies totalement différentes de ce que l'on connaît jusqu'à présent. Au début du livre, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, il se donne... évidemment, comparaison n'est pas raison, mais il se donne un challenge aussi difficile que c'était donné à Alain Corbin quand il décida d'aller faire la vie de Louis-François Pinagot avec juste la date de naissance, la date de mort, ce qu'il avait fait, où il était né, point à la ligne, et à partir de là, Corbin est capable de nous restituer ce qu'était la vie de ces catégories de personnes sur lesquelles on n'a pas toujours beaucoup d'éléments de biographie aussi totale, aussi complète. Et au fond, je me suis dit, c'est un peu le même ordre comme challenge. Et je trouve que de ce point de vue, le challenge est totalement relevé puisque c'est effectivement de la vie que nous parlez. Et c'est vrai que là, il y a sans doute un fait qui rend les choses plus faciles encore, plus possibles, parce qu'il y a cette jumelle qui, avec ses différentes, avec sa sœur, etc. Et vous explorez tout ça, je trouve, absolument magnifiquement. Et puis, à la fin du livre, j'ai pensé à un autre auteur. Je me suis dit, Foucault avait eu l'idée, dans les années 80, de dire « il faut publier des ouvrages ». Il en avait même fait un titre de collection, « La vie des hommes infâmes ». Car il s'agissait pour lui de dire « cessons de réduire, souvent des criminels d'ailleurs, pas seulement », où ces gens marginaux, à leur marginalité, ils avaient une vie, comment en rendre compte, etc. Et au fond, c'est un peu la vie des femmes meurtries que vous écrivez, et sur le mode de la vie. Et moi, j'ai trouvé extrêmement passionnant toute l'exploration que vous faites de cette situation de Laetitia, qui est à la fois une jeune femme qui est en train de se sortir de ses difficultés quand le drame survient, et qui en même temps a cette vulnérabilité qui fait qu'elle rencontre Tony Meillon et accepte d'être de faire ce bout de chemin très court avec lui qui mène à ce que l'on sait. Deux questions pour finir. je l'ai dit à Alain Blanc, je trouve que je ne sais pas comment votre éditeur a eu l'idée de cette jaquette noire avec ce titre incomplet. Bon. Moi, la jaquette, elle me fâche beaucoup. Alors, heureusement, aujourd'hui, les choses sont rétablies parce qu'il y a pris Médicis en bas. Donc, ça rassure peut-être le lecteur qui n'a pas très envie de ce livre à partir de cette jaquette. Je trouve que vraiment, c'est un peu curieux comme choix, mais peut-être allez-vous nous l'expliquer. Je crois que. Je suis en train de manger ce que je voulais dire, que je tenais pourtant beaucoup, donc c'est pas bien. Non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas trouver. C'était la fin du livre. Non, ce n'était pas la fin du livre. Je n'y reviens pas, je reviens à la jaquette et je termine là parce que je ne retrouve pas, j'en suis un peu fâché parce que, après moi, parce que je ne le retrouve pas. C'était une interrogation à vous aussi. Ah oui, vous allez voir. Ah, c'est un très très beau lapsus là. Oui, c'est la place de la défense. Alors, bien sûr. C'est amusant quand même que j'ai réussi à oublier ça. Je veux simplement que vous nous expliquiez le choix que vous avez fait. Je suis suffisamment proche de Nantes pour savoir un certain nombre de choses, comprendre, etc. Deviner, mais peut-être je me trompe tout à fait. Peut-être tout simplement que c'était Laetitia et c'était pas Laetitia et Tony Meillon. Mais en soi, ça justifie déjà que vous ayez fait le choix de ne pas parler de la défense. Mais en même temps, pour le lecteur, ça interroge. Enfin, sur l'émotion. Nombre de bouquins de mémoire d'avocats me sont tombés des mains par l'incapacité dans laquelle sont les avocats de restituer précisément tout ce qui passe de richesse dans une audience pénale. Et là, vous y réussissez précisément en faisant quelque part le contournement de l'audience pénale, en tout cas de la première. Mais sur la défense, c'est vrai que j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce point.
Merci pour tous ces commentaires, ces remarques. Je vous remercie chaleureusement pour la lecture que vous avez faite de mon livre. Pour ce qui est de la jaquette, c'est un point plus important qu'il n'y paraît, parce que, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, un livre est un travail collectif et je n'ai fait que écrire mon livre. C'était déjà pas mal, mais enfin, c'est tout ce que j'ai fait. En revanche, il a fallu ensuite un éditeur, un service de fabrication, une direction artistique, une attachée de presse, etc., etc. Alors la question de la couverture s'est posée quand j'ai remis le manuscrit, et j'avais dans l'idée de mettre sur la couverture ou la jaquette un portrait de Laetitia. J'y avais la famille d'accueil m'avait donné des photos qui n'étaient pas publiques, qui étaient des photos très belles, et j'avais dans l'idée de mettre ce visage sur mon livre. Et mon éditeur m'a dit c'est une connerie, parce que tu n'as pas écrit un reportage pour Paris Match. Tu as fait un livre d'histoire, de sociologie, qui pose des questions qui vont bien au-delà de Laetitia. C'est donc une erreur. J'ai été froissé pendant 48 heures et je me suis incliné, d'abord parce que je pense que chacun fait son métier. Et enfin, quelques jours plus tard, j'ai compris à quel point mon éditeur avait raison et à quel point j'avais eu tort. Et je n'ai aucun regret d'avoir consenti à mettre cette jaquette. C'est une jaquette qui est dite graphique dans le jargon, hein, c'est-à-dire aucune photo, mais simplement le titre sur un fond uni. Et cette jaquette, d'abord, elle a le mérite d'être bien visible. Après tout, un livre, il faut quand même qu'il se vende. Mais cette jaquette a aussi le mérite de correspondre à peu près à ce que je voulais faire. Et ça, c'est un grand mérite de la part de mon éditeur. En effet, si j'avais écrit comme on écrit les faits divers depuis 200 ans, c'est-à-dire du point de vue du criminel, comme l'ont fait des écrivains bien plus prestigieux que moi, Jean Genet, Truman Capote, Emmanuel Carrère ou encore Bernard-Marie Coltès, hein, tous ces grands écrivains ont parlé des faits divers mais du point de vue du criminel. Bref, si j'avais écrit comme on le fait depuis deux siècles, mon livre se serait appelé Tony Meillon. Et là, on aurait dit, enfin, quelqu'un qui n'est pas populiste, qui se tourne du côté de cette victime, Tony Meillon, victime de la société. Voilà ce qu'on aurait dit. Et ce n'est pas le point de vue que j'ai voulu prendre. J'ai voulu prendre le point de vue de la vie contre la mort et de l'absente contre celui qui est encore présent et qui est là pour pérorer dans son box et traiter sa victime de cochonne. Et cette jaquette correspondait à mon souhait, qui était ni plus ni moins de parler de Laetitia. Je ne voulais avoir que ce prénom à la bouche, et j'accepte que mon livre se résume à ce prénom.
Mon problème, c'était le rouge et le noir.
C'est ça,
alors,
c'est
la rouge. Alors que c'est un livre sur la vie. C'est
d'accord.
Ça qui me choque.
Oui. J'avais pas compris que c'était ça. Alors, je vais maintenant répondre à cette question. Vous y voyez le rouge sur le noir. Moi, j'y vois la phosphorescence de Laetitia. J'y vois sa lumière. Laetitia était une jeune fille pleine d'avenir, pleine de vie, heureuse. Et d'ailleurs, Laetitia, ça signifie, comme vous le savez, la joie en latin. Laetitia portait bien son nom. C'était une fille qui faisait du bien à ses proches et que tout le monde se prenait à aimer au premier regard. Et ce n'est donc pas moi, historien, qui suis arrivé avec ma lampe de poche pour balayer de son faisceau une obscurité humaine. C'est plutôt Laetitia qui a illuminé mon livre de sa lumière, de sa phosphorescence, de sa joie de vivre. Et donc, cet orange qui éclate sur la couverture, c'est cela. C'est sa phosphorescence, comme disait Modiano. C'est la lumière que j'ai essayé de traduire en mots. Là aussi, ça ne me gêne pas qu'on résume mon livre à cette espèce d'éclair orange qui jaillit sur le noir de l'étang du trou bleu dans lequel on l'a retrouvé un petit matin de février 2011. Plus importante et délicate pour moi est votre question sur la défense. C'est une question où je vais plaider coupable, figurez-vous. Vous avez peut-être senti que j'étais combatif sur certains points, mais sur celui-là, je ne serai pas combatif et je vais expliquer pourquoi j'ai eu en partie tort. Je vais commencer par une anecdote. Je faisais une conférence il y a quelques semaines dans une grande ville de l'Est de la France et l'adjointe au maire chargée de la culture vient me rencontrer, me saluer, ce qui était très, très sympa de sa part. Et elle me dit « Bon, votre livre, c'est quand même une belle réflexion sur la peine de mort. » Stupeur, stupeur. Je me dis « Comment peut-on lire ?» Alors je veux bien qu'on lise mon livre de mille manières, mais comment peut-on y croire ? Enfin, Je m'étonne un peu, je lui dis plutôt. D'abord, je suis opposé à titre individuel à la peine de mort, et puis à plusieurs reprises dans mon livre, j'explique bien qu'il faut défendre Meillon, hein, voilà qui n'est pas populiste, il faut défendre Meillon, il faut bien le défendre en plus. Bref, je reste un peu interdit, alors bon, puis finalement la discussion c'est un peu terminé là. Après, je demande au libraire, je lui dis, mais la mairie, elle est quoi? Elle me dit, c'est des sarcosistes de choc. C'est la fin de l'anecdote. Voyez en tout cas que ça aurait été bien sûr, c'était un contresens hein, de sa part de croire que c'était une réflexion à charge ou à décharge sur la peine de mort. C'était bien loin de mon esprit. Là où vous avez raison, c'est que il n'y a pas mention de l'avocat de la défense de Meillon. Vous avez tout à fait raison. D'abord, ça c'est une chose... Je pense que Meillon aurait pu être mieux défendu. C'est un jugement qui n'appartient qu'à moi, qui est mon pur arbitraire de citoyen. J'ai assisté à l'intégralité du procès, voilà ce que je pense. Je pense qu'il aurait été... Il aurait mérité un Badinter. Il aurait mérité une Cécile de Oliveira. Bon. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que de tous les proches de Laetitia, je n'ai pas rencontré Meillon. Alors l'expression va peut-être vous surprendre, mais avant de tuer Laetitia, Meillon l'a séduite. Et en ce sens, il méritait de faire partie de mon livre, non pas comme facteur de mort, mais comme facteur de... Bon, amour, c'est un bien grand mot, mais de flirt. L'enquête criminelle a établi cette vérité troublante que les dernières heures de Laetitia, elle les a passées à suivre celui qui allait devenir son meurtrier. Elle est allée boire un verre avec lui, deux verres avec lui. Elle s'est laissée prendre en photo par lui en se baladant sur la plage, une balade romantique alors que le soleil se couchait. Ensuite, elle a sniffé de la coke avec lui, elle a fumé du shit avec lui, elle est allée boire des coupes de champagne avec lui vers 11h, et finalement, elle l'a suivi à minuit dans son antre, un lieu très isolé, alors qu'on était dans la nuit du mardi au mercredi et qu'elle travaillait le lendemain. Bref, la lumière rouge du danger a clignoté toute la journée sous les yeux de Laetitia, et elle ne l'a pas vue. C'est une vérité que l'enquête criminelle a établie et qu'il faut voir en tant que telle. Je n'y répondrai pas ce soir. En revanche, vous voyez que Meillon méritait d'être peut-être davantage dans mon livre en tant que celui qui a peut-être inspiré une forme de sentiment ou de proto-affection, pour ne pas dire plus, à sa future victime. Et j'ai décidé de ne pas rencontrer Tony Meillon. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que l'administration pénitentiaire ne m'aurait pas permis de le rencontrer parce que au moment où j'ai fait mon enquête, il n'était pas définitivement jugé et donc il était présumé innocent. Et l'administration pénitentiaire n'autorise pas des gens qui ne sont pas des parents, c'est mon cas, à visiter quelqu'un qui est présumé innocent. Bon, mais là, au fond, ce n'est que technique. Et le reste vient. Le plus important est à venir. J'ai décidé de ne pas rencontrer Tony Meillon. Il y a là une faute de méthode que j'assume, parce qu'un historien doit rencontrer tout le monde. Et ce grand historien et grand artiste qu'est Claude Lanzmann, dans son documentaire et œuvre d'art Shoah, lui n'a pas eu peur de rencontrer des nazis. Alors pourquoi moi, a fortiori, je n'ai pas rencontré ce tout petit criminel qu'était Tony Meillon ? Je ne l'ai pas rencontré parce que la famille de Laetitia m'a fait confiance et elle n'aurait pas admis, elle n'aurait pas supporté que je rencontre Tony Meillon. Jessica Perret a accepté de me rencontrer, de me dire des choses très intimes, très douloureuses pour elle, et ses parents, ses oncles, ses tantes aussi. Ils n'auraient pas compris que je rencontre Tony Meillon et j'ai cédé. Il y a ici une erreur, une faute de méthode de ma part. J'ai cédé au nom de la confiance qu'il m'avait faite, et j'ai cru que ce serait une faute morale de ma part que de rencontrer Tony Meillon dans sa cellule, alors que la famille de sa victime m'avait fait tellement confiance. Il y avait au fond deux fautes, une faute morale et une faute de méthode, et j'ai préféré la faute de méthode.
Sur cette phrase qui nous ramène à quelque chose d'assez trivial, c'est qu'en principe, c'est l'amphithéâtre, nous devons le quitter à 20h. Hein. Et sur une lancée de débat hein, où on a balayé de multiples sujets, comme on a voulu le faire à l'AFC, vraiment, j'ai l'impression et je souhaite que chacun puisse y avoir trouvé des questionnements, moins de réponses que de questionnements, mais des approfondissements, le goût d'aller lire hein, ce qui vous a été proposé et d'autres livres. De rappeler bah, que l'AFC, c'est une association qui vit ses cotisations essentiellement, et que si ceux qui ne vous ont pas encore rejoints veulent bien nous rejoindre, eh bien, j'ai vu Kaïd Achouk a amené le bulletin d'inscription. Je vous remercie vraiment vivement tous d'être venus, d'avoir participé à débat, bien sûr, et bonjour Jean-Marc, de votre spontanéité et de toute votre démarche que vous avez livrée, et vraiment que moi je pense vraiment importante dans l'évolution sociale sur laquelle on travaille à partir du crime. Merci beaucoup. Merci.
Merci.
faut s'arrêter, ça.
Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Attendez. Il est Pascal.
Pascal. Pascal.
Ça va ?
Je vais vous dire bonjour avant de me lever.
Bon, je crois que c'est le
pardon, c'est violent. C'est passionnant.
Je n'avais qu'une hâte, c'était de venir.
Je suis ravie, mais
c'est vrai, j'ai pas pu parler.
Le livre.
Ah, non, ça n'allait pas assez de temps. Passionnant. Passionnant.
Ça va mieux.
Ah ouais.
On a un peu le trac.
Ah bon ? Oh là là.
Ah ouais. Comme ça,
ah ben, moi j'ai beaucoup
aimé. Et comme ça, tu as vu tout ça, Timère, justement, je pense que ça passe un cap.
Mais moi, j'ai vu un travail politique. Je n'ai pas du tout vu ce que vous avez vu.
Ah bon ?
Ah oui, pour moi, c'est un travail politique.
Ah oui, oui, sans avoir droit. Il faut vous faire attraper.
J'ai été intervenant
génétique. Mais c'est aussi un travail politique.
Oui, oui, bien sûr.
Et c'est vrai que c'est avant tout un travail politique. C'est finalement historien.
Oui, je mets
sens, non, mais je la dimension sais, aussi.
Je sens que tu veux dire de connaissance.
La grève,
oui,
si tu veux, l'émotion, la rage, il y avait un truc qui sont présents également.
Aussi bien, mais c'est la première chose que j'ai vue, c'est pas ça.
Par rapport à...
Enfin, le bouquin est assez...
Vraiment, pour moi, je...
Mais
il m'a
changé des mails.
Oui, j'aimerais bien.
J'entends pas du tout.
Des mails.
Oui, à propos de... Ah mais oui, ça y est, oui, oui, absolument. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Ça vous a intéressé ? D'accord, très bien. Ah bon, alors moi j'en veux un aussi, dédicace.
Voilà.
Merci. Merci pour tous les mots.
Merci beaucoup, BGC. À bientôt.
Pascal ?
Je veux quelque chose, moi je suis d'accord.
Alors,
non, c'est intéressant, hein. C'est passionnant quand même, non ?